Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous commencerons par ces violences qui s'intensifient dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Cette nuit, la Turquie annonçait au moins 33 soldats tués dans des raids aériens menés par Damas. Ankara a répliqué. Nous retrouvons notre envoyé spécial à la frontière turco-syrienne dans un instant.
Et puis vous entendrez ensuite les arguments d'Emmanuel Macron. Il explique pourquoi les frontières ne seront pas fermées en France face au coronavirus. L'épidémie s'étend encore jusqu'en Afrique subsaharienne à présent.
La justice française s'oppose à la reconnaissance faciale à l'entrée de deux lycées dans le sud-est. Vous comprendrez pourquoi dans un instant.
Et puis nous reviendrons sur cette démission en masse. La rédaction des Cahiers du cinéma démissionne. Elle est en désaccord avec les orientations et le profil de ses nouveaux actionnaires.
Et cela alors qu'aura lieu ce soir la cérémonie des Césars du cinéma français en pleine crise. Là aussi, c'est le thème des matins de France Culture. C'est déjà l'une des attaques les plus meurtrières jamais subies par la Turquie dans son histoire récente. Au moins 33 soldats turcs sont morts hier soir dans le nord-ouest de la Syrie, tués par des frappes attribuées au régime syrien. Ankara a aussitôt riposté en bombardant des positions de Damas, laissant craindre une escalade et un nouveau désastre humanitaire. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour.
Vous vous trouvez à la frontière turco-syrienne, à Reyhanlı. D'abord Aurélien, que s'est-il passé exactement hier soir ?
Écoutez, il était 23h ici à Reyhanlı quand on a commencé à entendre des hélicoptères de l'armée turque survoler la ville, suivi assez rapidement d'un balai d'ambulances qui faisait l'aller-retour sirène hurlante entre le poste frontière et les hôpitaux de Reyhanlı, mais aussi d'Antakya, un peu plus à l'intérieur des terres. Des secours qui ramenaient des soldats turcs blessés dans ce bombardement, répartis ensuite entre les hôpitaux de la région en fonction de leur état de santé, les plus gravement blessés étant transférés par voie aérienne vers la capitale turque. Ce balai a duré jusque tard dans la nuit et le bilan s'est alourdi d'heure en heure. On a d'abord pensé que ces troupes turques avaient été visées dans les environs de la ville de Sarakeb, une ville clé pour le contrôle de l'axe routier qui relie Damas à Alep, la deuxième ville du pays. Une ville prise la semaine dernière par le régime, mais reprise il y a 48 heures par les rebelles, soutenus par l'armée turque. En fait, ce bombardement a visé un convoi de l'armée turque beaucoup plus au sud, dans une localité sous contrôle des rebelles et assez éloignée de la ligne de front. Pour l'instant, les autorités turques ont attribué ces frappe au régime syrien et pas à l'aviation russe qui le soutient et qui frappe aussi quotidiennement des positions rebelles dans Idlib.
Alors, ce qui s'est passé hier soir, Aurélien, peut-on dire que ce sera l'étincelle qui mettra véritablement le feu aux poudres dans la région d'Idlib? Les Russes, alliés du régime syrien, sont-ils également visés?
Alors c'est difficile à dire, Clara, la Turquie annonce qu'elle a frappé des positions syriennes, mais moi je ne suis pas en mesure de le confirmer de là où je suis. Ce qui est sûr, c'est que la situation était de plus en plus tendue ces derniers jours, car on s'approche de la fin de l'ultimatum lancé par la Turquie au régime syrien. Ankara a donné jusqu'à la fin du mois de février au régime pour se retirer des zones conquises ces dernières semaines dans la province d'Idlib. Ultimatum que le régime syrien n'avait pas l'intention de respecter, Bachar al-Assad l'a dit lui-même. Il y a quelques jours, son offensive ne s'arrêtera pas. Les négociations entre la Turquie et la Russie, parrain du régime syrien, n'ont rien donné. Donc on s'attendait ici à une vaste offensive terrestre menée par des rebelles syriens avec l'appui de l'armée turque qui n'a cessé d'envoyer des renforts à Idlib. 6000 hommes, 2000 véhicules. Alors est-ce que le bombardement de la nuit dernière va accélérer le lancement de cette offensive terrestre pour reconquérir toute la province? On va le savoir dans les prochaines heures. La Turquie en fait est dans une situation un peu délicate. Elle est sans aucun doute supérieure à l'armée du régime syrien. Mais c'est la Russie qui contrôle l'espace aérien en Syrie, qui couvre l'offensive du régime. Et Moscou, ces dernières semaines, n'a pas montré le moindre signe d'inflexion, bien décidé à continuer de couvrir l'offensive du régime de Bachar al-Assad.
Merci Aurélien. Aurélien Colli depuis la frontière turco-syrienne pour France Culture ce matin. Et à l'instant, un responsable turc annonce que la Turquie ne stoppera pas les migrants qui essayent actuellement de se rendre en Europe. Je vous rappelle que près d'un million de Syriens ont fui leur habitation ces trois derniers mois. Plus de 78 000 personnes contaminées par le coronavirus en Chine. Voici le nouveau bilan communiqué hier soir par Pékin, qui annonce donc 44 morts ces dernières 24 heures. Il s'agit toutefois du plus faible bilan enregistré dans le pays en un mois. Ailleurs, en revanche, l'épidémie progresse. Elle débute en Afrique subsaharienne avec un premier cas au Nigeria. Elle s'étend en Europe. Les Pays-Bas et la Lituanie enregistrent leurs premiers patients contaminés. La France, elle, en est à 38 contaminations, dont 2 morts, 24 hospitalisations, 12 patients guéris. La lutte contre cette épidémie ne pourra se régler qu'en parfaite coopération européenne et internationale. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier depuis Naples. Il participait au 35e sommet franco-italien.
Il faut s'en remettre aux scientifiques. Il semble que le virus ne s'arrête pas aux frontières. N'en déplaise peut-être à certaines et certains, il ne connaît pas cette géographie et ses limites administratives. Et donc parfois des confinements sont importants, mais l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui ne recommande pas la fermeture des frontières. Et donc les décisions au sein de l'Europe seront prises de manière toujours coordonnée sur la base d'éléments scientifiques et toutes les décisions utiles seront prises en temps voulu, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui parce que les scientifiques nous disent que ça n'a pas d'utilité.
Pas de fermeture de frontières donc, mais entre la France et l'Espagne. En Cerdagne par exemple, les professionnels de santé s'inquiètent face à ce coronavirus. Sébastien Berriot s'est rendu à l'hôpital franco-catalan depuis Cerda et il raconte.
Les réunions sur le coronavirus s'enchaînent plusieurs fois par jour au sein de l'hôpital de Cerdagne, l'établissement unique en Europe, géré à la fois par l'Agence de santé d'Occitanie et la Généralité de Catalogne, doit s'adapter au protocole des deux pays qui évoluent en ce moment d'heure en heure. Dans l'hôpital, l'inquiétude commence à monter au sein du personnel. Le docteur Mickaël Barcelo, chef des urgences.
C'est une inquiétude majeure par le sujet, par la peur, par la mauvaise information et puis parce qu'on est en première ligne et c'est vrai qu'on peut être très vite engorgé, ça peut nous déstabiliser, même par rapport aux autres patients. Ces deux cas à Barcelone depuis hier, on est à côté de la France où il y a aussi plein de cas. On n'est pas une zone avec une grosse population, mais on est dans une zone avec une transition importante des gens qui viennent de partout. Il faut être très vigilant.
Aux urgences, le personnel a été formé pour accueillir d'éventuels patients contaminés. Angelina, agent d'accueil.
On nous a dit, quand il arrive un patient, qu'il a des symptômes comme de la fièvre, difficultés respiratoires, ben normalement, il faut demander s'il a été en voyage récemment, à quel pays il a été. Il faudrait lui donner un masque et après, il faut appeler à triage.
Le protocole prévoit d'envoyer les patients français potentiellement contaminés sur l'hôpital de Perpignan, alors que les malades catalans, eux, sont transportés vers un CHU de Barcelone. L'hôpital de Cerdagne ne dispose que d'une seule chambre d'isolement. Pour le moment, il y a des masques et des tenues de protection, mais les quantités sont limitées et de l'aveu même du chef des urgences, une rupture de stock est possible dans les jours ou les semaines qui viennent.
Et c'est justement cette peur de la panique, cette peur de ne pas maîtriser une éventuelle pandémie qui fait chuter les marchés financiers ces derniers jours. Hier encore, la Bourse de Paris dévissait de plus de 3%, idem à Londres et à Francfort, moins 3% cette nuit aussi à Shanghai. Et le coronavirus n'arrange d'ailleurs rien aux affaires de certaines entreprises. Air France va supprimer près de 1500 postes sur 3 ans. Ces départs ne seront pas contraints, ce seront des postes non remplacés. Officiellement, il n'y a pas de lien avec le coronavirus, mais force est de constater que le gel de certains trajets vers l'Asie est un coup dur pour cette compagnie aérienne. Christelle Hostet, secrétaire générale du SNPNC, le premier syndicat d'hôtesses et de stewards, s'en explique.
Concrètement, Air France desservait Shanghai ou Pékin jusqu'à 2 fois par jour et donc on se retrouve avec des avions qui ne sont plus affectés sur ces lignes et donc on augmente les capacités sur certaines destinations, on en a de nouvelles, le temps de peut-être laisser passer la crise et en tout cas de s'adapter à ce qu'on peut observer. Par ailleurs, il y avait des embauches qui étaient prévues, notamment pour des hôtesses et des stewards. Et notamment ceux qui étaient issus des compagnies et de l'Azur ou XL Airways. Et ces embauches vont être repoussées pour l'instant.
Des propos recueillis par Marie Viennot.
8h09 sur France Culture. La suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La justice française invalide un dispositif de reconnaissance faciale.
Oui, c'est le tribunal administratif de Marseille qui est revenu hier sur une décision de la région PACA. Elle prévoyait en fait d'expérimenter la reconnaissance faciale à l'entrée de certains lycées pour en sécuriser l'accès. Ce devait être une première, mais le recours de 4 associations a fonctionné, Catherine Pétillon.
Cette décision met fin à une expérimentation de la reconnaissance faciale à l'entrée de 2 lycées, à Nice et Marseille. Celle-ci prévoyait l'installation de portiques à l'entrée des lycées. Il s'agissait de scanner les visages des élèves avant de les laisser accéder à leur établissement. Un projet mené avec l'entreprise américaine Cisco. Mais le tribunal administratif a jugé ce recours à la reconnaissance faciale non conforme aux règles en matière de protection des données personnelles, explique Félix Tréguer de la Quadrature du Net, l'une des 4 associations à l'origine du recours.
Les élèves et leurs responsables légaux auraient dû signer un petit formulaire pour consentir à prendre part à cette expérimentation. Et le tribunal a estimé que, compte tenu de la relation d'autorité des élèves et de l'administration de l'établissement, ce consentement ne pouvait pas être libre et éclairé. Et toujours sur le droit des données personnelles, c'est l'idée que la reconnaissance faciale, c'est une forme de surveillance biométrique qui doit être envisagée à titre vraiment exceptionnel. Et en l'espèce, le tribunal a rappelé qu'on pouvait, avec un système de badge ou d'autres dispositifs, tout à fait réguler les entrées et les sorties de l'établissement et assurer la sécurité de l'établissement sans reposer sur un dispositif de surveillance biométrique.
Des arguments que la CNIL, le gendarme de la vie privée, avait déjà énoncés dans une mise en demeure à l'automne dernier. Le président LR de la région, Renaud Muselier, qui a toujours présenté ce dispositif de reconnaissance faciale comme un gain de temps et de sécurité, a lui regretté cette décision. La région ne se prononce pas encore sur la suite qu'elle donnera. Elle a 2 mois pour faire appel. De leur côté, les associations espèrent que cela fera jurisprudence, alors que plusieurs cas similaires seront bientôt devant les tribunaux.
Et c'est Lubrizol qui se retrouvera aussi bientôt devant le tribunal. Sa filière française est mise en examen 5 mois après l'incendie de l'usine classée Seveso O à Rouen. La justice française lui reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures pour en limiter l'impact. Et je vous rappelle que près de 9000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé. Fin des candidatures pour le premier tour des municipales dans 1 mois. Le dépôt des listes est terminé depuis hier soir 18h. Près d'1 million de personnes s'apprêtent donc à briguer un mandat municipal dans un petit peu moins de 35 000 communes en France. Parmi elles, beaucoup de novices en politique qui ne s'engagent qu'au niveau local. Pour France Culture, Rosalie Lafarge s'est notamment intéressée aux listes dites participatives dans la lignée de l'effervescence démocratique qui règne autour de ces élections. Rosalie est entre autres allée dans la Drôme, à Saillant, petit village où les habitants avaient en 2014 choisi une liste citoyenne. 6 ans après, Sabine Girard, aujourd'hui dans l'équipe municipale, se souvient.
Je me rappelle à votre arrivée à une réunion publique, on ne voyait pas qui c'est qu'organisé. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. On a bossé 2 heures sur des petites tables à se dire qu'est-ce qu'on veut pour le village, etc. Et j'étais comme tout le monde, j'ai dit mais c'est qui organise, c'est qui veut être maire. Mais en fait, il n'y avait pas de réponse à ça. Il y avait juste une feuille sur la table à la fin qui disait bah, qui veut porter ce programme-là qu'on est en train de faire ensemble. Et là, j'ai fait non mais c'est pas possible en fait, ils y connaissent rien, ils savent pas ce que c'est une intercommunalité. Bon, il faut que j'y aille juste pour au moins les alerter là-dessus. Mais oh, non, hors de question que je sois élue, j'ai 3 enfants, dont un qui est en bas âge, hors de question quoi. Et je suis rentrée de la première réunion en disant à mon conjoint, mais c'est pas possible en fait, personne n'est spécialiste de rien là-dedans. Et en fait, c'était trop génial. C'était superbe de voir des gens qui étaient juste super motivés, qui avaient en fait finalement à la réflexion, ils avaient tous une expertise, mais pas celle que j'imaginais être celle d'un maire. Et j'avais évidemment une image complètement fausse de ce que pouvait être un élu. Et j'ai trouvé ça tellement osé, tellement courageux de se dire... Personne n'y connaît rien plus que ça, personne ne sait plus que ça ce que c'est la démocratie participative, mais tout le monde est motivé, tout le monde y croit. Je dis mais en fait, bah moi aussi alors.
Et pour plus de témoignages sur cette démocratie participative, Rosalie Lafarge vous donne rendez-vous à partir de 17h ce soir pour le grand reportage de la rédaction. Il est intitulé « Municipal, l'important c'est de participer ». Il a été réalisé grâce à François-Charles Domergue et Annie Brault. Il sera suivi d'une discussion animée par Aurélie Kiefer. Un reportage à retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Roman Polanski, absent avec 12 nominations. Pas de César d'honneur pour la première fois en 45 éditions. Une présidente par intérim. Et les Césars 2020 du cinéma seront sans doute un petit peu plus mouvementés ce soir encore. L'Académie est accusée, je vous le rappelle, d'opacité, de non-parité, de promouvoir un réalisateur accusé d'agression sexuelle. La cérémonie est prévue à 21h et déjà devant la salle Pleyel à Paris, des slogans chocs du collectif féministe « Nous toutes » ont été affichés. Ce collectif promet un rassemblement en début de soirée. Nous y reviendrons avec nos invités à partir de 8h20 dans les matins de France Culture. Là aussi, il s'agit de cinéma. Là aussi, on parle entre autres de connivence. L'ensemble de la rédaction des Cahiers du cinéma annonce sa démission, décision d'une ampleur rare. Le mensuel mythique a été racheté par un collectif de 20 producteurs et de patrons. Et les 15 rédacteurs salariés sont en désaccord avec ces nouveaux actionnaires. Bonjour Éric Chavroux.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
La rédaction engage donc la clause de cession et elle explique pourquoi.
Dénaturer les Cahiers, les dévoyer dans un communiqué, les plumes du magazine emblématique du 7e art refusent de participer à un titre qui deviendrait convivial et chic selon l'avenir qu'on leur aurait tracé. Les 15 salariés font valoir la clause de conscience qui protège le droit du journaliste lors du changement de propriétaire d'un journal. Leurs craintes publiquement exprimées il y a peu n'auraient pas été entendues, la charte d'indépendance promise contredite, et ils contestent vivement la nature même de leur nouvel actionnariat, avec notamment des proches du pouvoir et surtout 8 producteurs, ce qui, selon les démissionnaires, pose un problème de conflit d'intérêts immédiat dans une revue critique. Les journalistes refusent de devenir, je cite, une vitrine clinquante ou une plateforme de promotion du cinéma d'auteur français, et ils revendiquent l'article le plus célèbre de la revue, signé François Truffaut, fustigeant la bourgeoisie d'une partie du cinéma français. Ils dénoncent aussi la concentration de titres de presse, jadis libres, selon eux, au profit de grandes et télécoms ou de patrons. Xavier Niel et Alain Veil sont parmi leurs repreneurs. À quelques heures des Césars, un nouveau symbole du cinéma français plonge donc dans l'inconnu, avec déjà des ventes en recul à environ 12 000 exemplaires en moyenne l'an dernier. Que deviendra cette bible des cinéphiles, fondée en 1951 par André Bazin et qui a contribué à la naissance de la nouvelle vague?
Merci pour cette vaste question et ces précisions ce matin, Éric Chavrouf. Quelques mots de la météo de ce vendredi. De faibles pluies sont prévues aujourd'hui, mais la journée sera globalement ensoleillée et calme. Ce matin, il fait 4 degrés à Lille, 5 à Paris, Strasbourg et Lyon, 11 degrés à Bordeaux et 14 à Nice.